Extrait du livre 9 de l'Énéide de Virgile, l'épisode célèbre de Nisus et Euryale. Voici la situation. Les Rutules assiègent le camp troyen, décidés à attaquer le lendemain. En attendant, ils boivent ou ils dorment. Les Troyens, de leur côté, sont privés de la présence d'Énée qui est parti pour Palanthée. Nisus et Euryale, deux jeunes guerriers liés par l'amitié, proposent de traverser de nuit les lignes des ennemis ivres ou endormis pour rejoindre Énée et lui transmettre un message. Les Troyens craignent l'attaque des Rutules. Ce spectacle a frappé la jeunesse troyenne. Aux portes de la ville, ils accourent soudain. Un sage effroi leur met les armes à la main. Ils bordent leurs remparts, et de leurs tours fidèles, les chemins suspendus les unissent entre elles. Et Céreste et Menestée ordonnent les travaux. Énée, à son départ, si des périls nouveaux menaçaient la cité, leur remit sa puissance. Dans son poste, à leur voix, chacun vient se ranger. Tous, ainsi que l'honneur, partagent le danger, et les murs sont couverts de leurs fières cohortes. Parmi les combattants qui veillaient à leur porte, rejetons glorieux du beau sang d'Hyrtacus, à sa place d'honneur se distingue Nisus. Nisus, chasseur adroit et guerrier intrépide, aucun d'un bras plus fort ne lance un trait rapide. Autrefois la terreur des habitants des bois, Ida le vit partir pour de plus grands exploits. À ses côtés veillait le charmant Euryale, en grâce, en beauté, nul Troyen à l'égal. À peine adolescent, de son léger coton la jeunesse en sa fleur ombrage son menton. Toujours même intérêt, même emploi les rassemble. À de communs dangers, tous deux volaient ensemble. Et dans cet instant même, un devoir hasardeux à la porte du camp les réunit tous deux. Soudain, Nisus s'écrie « Oh, moitié de mon âme, est-ce un dieu qui m'inspire? Est-ce un dieu qui m'enflamme? Ou, suivant de nos cœurs l'instinct impérieux, prenons-nous nos transports pour un avis des dieux? Je le sais, mais le mien, que la gloire maîtrise, a besoin de tenter quelque grande entreprise. Assez dans nos remparts j'ai langui renfermé. De périls de combat, mon cœur est affamé. L'occasion me rit. Tu vois quelle est l'assurance des imprudents latins, endort la vigilance. Autour d'eux tout se tait, tout dort. Et de leur camp, les feux abandonnés languissent expirant. Du sommeil et du vin, les vapeurs les enivrent. La nuit, leur négligence, et les dieux nous les livrent. Écoute mon projet. Nos dangers, notre amour de notre chef absent demandent le retour. On veut lui députer un messager fidèle, et ma vaillance envie un danger digne d'elle. Qu'on t'assure au retour le prix de ma valeur. À l'ami de Rial, il suffit de l'honneur. Je pars. Sous ces hauteurs, une route écartée me conduit, je l'espère, au mur de Palanthée. Ainsi parle Nisus. Euryale, à l'instant, de la soif des dangers, s'enflamme en l'écoutant. Et quoi, sans Euryale, aurais-je pu le croire? Nisus, mon cher Nisus, tu voles à la gloire? Crois-tu que je balance, avare de mes jours, à payer de mon sang cet honneur où tu cours? Ah, ce n'est pas ainsi qu'au milieu des alarmes, des horreurs d'un long siège et du fracas des armes, les soins du brave Ophelt instruisirent son fils. Toi-même de mon cœur, tu t'étais mieux promis, comme à jeune valeur sur les champs de Neptune suivit le grand aîné sa noble infortune. Je sens, oui, je sens là, je connais bien mon cœur, les mépris de la vie et la soif de l'honneur, et puis-je dans la lice où ta valeur t'engage trop briguer un péril que mon ami partage? Non, je ne doute point de ton cœur généreux, lui réplique Nisus. m'en préserve les dieux. Qu'ainsi puissent ces dieux, arbitres de la gloire, au sein de l'amitié, ramener la victoire. Mais les périls sont grands. Et si le sort jaloux, si les dieux ennemis conjuraient contre nous, ton âge tendre encore te défend de me suivre. C'est à moi de mourir, à toi de me survivre. Qu'il me reste un ami quand je ne serai plus, qui ravisse au vainqueur ou rachète Nisus, ou si, pour leur payer les tributs funéraires, il ne peut obtenir des dépouilles si chères, à mon ombre du moins, élève un vain cercueil. Songe à ton tendre ami, songe à ta mère en deuil. Hélas, à ton départ, seule entre tant de mères, elle a suivi tes pas aux terres étrangères, et dédaignant des porcs et des princes amis, leur préféra les mères qu'allait braver son fils. Veux-tu que de sa mort, ton ami soit la cause? En vain à mes projets ton amitié s'oppose. Marchons, dit Urial. Il s'élance à ces mots. Deux guerriers à l'instant remplacent ses héros. D'un pas précipité vers la tente d'Ascagne, Urial s'avance et Nisus l'accompagne. Déjà l'obscure nuit versait l'oubli des maux. Les chefs seuls des Troyens, refusant le repos, cherchaient dans ce péril le parti le plus sage. Qui doivent-ils charger d'un important message? Voilà quel grand objet occupe ces guerriers. Tous, portant à leurs bras leurs larges boucliers, debout, et s'appuyant sur une longue lance, comme pour le conseil, sont prêts pour la défense. Urial et Nisus se demandent d'être admis. Un projet, disent-ils, fatal aux ennemis, les conduit au conseil. Ce qu'on peut en attendre vaut mieux quelques moments donnés à les entendre. Ascagne les reçoit et demande à Nisus d'expliquer les projets que leur zèle a conçus. Troyens, ne jugez point nos projets par notre âge, dit-il. Il peut unir la prudence au courage. Sous la porte qui touche au rivage des mers, la route se partage en deux sentiers divers. L'un d'eux, inaperçu, propre à notre entreprise, mène aux murs de Pallas, et jusqu'au fils d'Anchise, tout sert notre projet. Vous voyez des Latins dans les airs obscurcis fumer les feux éteints. Du vin et du sommeil, l'ivresse les accable. Laissez-nous donc saisir ce moment favorable. Bientôt, vous nous verrez sanglants, victorieux, revenir tout chargés d'un butin glorieux. Ne craignez pas d'erreur. Souvent de longues chasses nous ont dans ces sentiers ramenés sur nos traces. Et du fleuve 20 fois reconnaissant les bords, nous avons de la ville aperçu les abords. Alors le vieil Aleste, avec transport, s'écrie « Dieu, ô Dieu protecteur de ma chère patrie, puisque vous nous laissez de si nobles soutiens, quelque espoir reste encore aux malheureux Troyens ?» Il dit « Baigne de pleurs le bienfaiteur de Troie. Son âme tout entière en leurs bras se déploie. Héroïques enfants, ah, qui pourra jamais acquitter votre dette et payer vos bienfaits? Ah, le ciel vous en doit la juste récompense, et dans votre grand cœur vous la trouvez d'avance. À ce prix si flatteur pour un vrai citoyen, le généreux aîné ajoutera le sien. Et son jeune héritier, déjà mûr pour la gloire, d'un si beau dévouement gardera la mémoire. Oui, dit Ascagne ému, j'en jure par ces dieux, par les dieux d'Ilion, par Vesta, par ces feux, tout ce que me promet un destin plus prospère, tout ce que je possède et tout ce que j'espère, Nisus, entre vos mains, j'en fais l'aveu sacré du retour de mon père et le prix assuré. Rendez-moi ses conseils, rendez-moi sa présence. Qu'il revienne, avec lui reviendra l'espérance. Je vous donne en retour 2 vases d'un grand prix, dans la triste Arisba par mon père conquis. Ce fruit de ses exploits sera le prix des vôtres. À ces riches présents, j'en veux ajouter d'autres, deux beaux trépieds d'airain, d'immenses talents d'or, un présent de Didon, plus précieux encore, c'est une coupe antique et chère à ses ancêtres. C'est peu, du Latium, si le ciel nous rend maître. Vous avez de Turnus vu le noble coursier, son aigrette de pourpre et son beau bouclier. Je ne souffrirai pas que le sort en ordonne, Nisus, et dès ce jour, Ascagne vous les donne. J'ajoute à ces présents 12 jeunes beautés, avec leurs 12 enfants par leur sein allaités, 12 esclaves armés, enfin, la riche plaine qui du roi des Latins est l'antique domaine, et toi, qu'un âge égal rapproche encore de moi, ô respectable enfant, tout mon cœur est à toi. Que me soit la fortune ou propice ou fatale, Ascagne ne peut plus vivre sans Euryale. Ami de mes conseils, âme de mes combats, je verrai par tes yeux, je vaincrai par ton bras. Le serment en est fait. Ah, que les dieux propices de ma jeune valeur couronnent les prémices. C'est assez pour mon cœur, je le jurerai jamais, rien ne démentira ces glorieux essais, dit Euryale en pleurs. Mais il est une grâce qui vaut tous ces trésors, qui même les surpasse. Une mère du sang de notre dernier roi a tout fait, tout osé, tout supporté pour moi. Pour moi, son tendre amour a quitté sa patrie, a bravé les hasards d'une mère en furie. Quand je vole pour vous à de nouveaux hasards, seul je lui reste encore, je l'adore et je pars. Je pars sans l'avertir. Ma timide tendresse a craint par des adieux d'affliger sa vieillesse. Je crois déjà la voir sous ses tristes lambris, à ses fouillés déserts, redemander son fils. J'en jure par la nuit, témoin de mon audace, j'en atteste en pleurant cette main que j'embrasse. Je puis braver la mort, mais non pas ses douleurs. Le plus grand des assauts est celui de ses pleurs. Mon cœur eût succombé. Vous, à qui je la laisse, soignez son abandon, secourez sa vieillesse. Fort de ce doux espoir, je marche sans effroi et chéris un péril qui n'expose que moi. Il dit. Et les Troyens laissent couler leurs larmes. Mais Ascagne surtout, partageant ses alarmes, n'entend pas sans pleurer ses touchants entretiens et les regrets d'un fils renouvellent les siens. Eh bien, dès ce moment je l'adopte pour mère, oui, je deviens son fils et tu deviens mon frère. Et qui peut trop chérir la mère d'un tel fils? Tout ce que les Troyens par ma voix t'ont promis, tout ce que je réserve à ton retour prospère, j'en jure par mes jours, par qui jurait mon père, ne dépend plus du sort. Quel que soit le succès, ta mère, tous les tiens, sont sûrs de mes bienfaits. Il dit, et de ses pleurs baigne son beau visage, lui donne son épée, ingénieux ouvrage, dont le fourreau d'ivoire et l'acier brillant d'or, de l'art de l'Icaon s'embellissent encore. D'un lion dépouillé de sa large fourrure, Menestré offre à Nisus la sauvage parure. Et pour son jeune front, allait en l'embrassant, détache avec plaisir son casque éblouissant. Ils partent, revêtus de leurs brillantes armes. De leurs vœux, de leurs cris, de leurs touchantes larmes, les femmes, les vieillards, les chefs et les soldats aux portes de la ville accompagnent leurs pas. D'Ascagne, cependant, la précoce prudence, devançant les leçons, l'âge, l'expérience, à son père envoyait 1000 avis importants. Vaine espoir, ses discours sont le jouet des vents. Ils sortent. Des fossés, ils passent la barrière. dans l'ombre de la nuit, poursuivent leur carrière. Vers le camp qui sommeille, ils dirigent leurs pas. Mais combien d'ennemis, immolés par leurs bras, vont marquer leur passage et leurs traces sanglantes. Parmi les traits, les chars et les rênes pendantes, les vases renversés et les vins répandus, les soldats au hasard sommeillaient étendus. Cher ami d'Inisus, voici l'heure propice. Faisons sur notre route un sanglant sacrifice. Voici notre chemin. De ce camp endormi, prends garde que soudain un perfide ennemi ne fonde sur nos pas, et, prudent sentinelle, ici de tous côtés, jette un regard fidèle. Moi, sur leur corps sanglant, je te fraye un chemin. Il dit, se tait, s'élance, et le glaive à la main perce le fier Ramnès. Sur la pourpre opulente des carreaux que pressait sa mollesse indolente, le fier Ramnès, bercé par des songes trompeurs, du sommeil à grand bruit exhalait les vapeurs. Le bandeau du pontife et celui du monarque de son double pouvoir offraient la double marque. Turnus le consultait, mais son savoir divin lut tout dans l'avenir, excepté son destin. Parmi les chars oisifs et les rênes traînantes, trois des siens sommeillaient sur ces plaines sanglantes. Tous trois sont immolés. Deux guerriers de Rémus, dont les yeux assoupis ne se rouvriront plus, dès longtemps partageaient ses exploits, ses alarmes. L'un guidait ses coursiers, l'autre portait ses armes. Leurs coups, qui de leurs chars débordaient suspendus, par le tranchant acier en deux parts et fendu. De leur mettre bientôt sa superbe conquête sur leur corps mutilé, Nisus abat la tête. Et son sang, qui s'échappe en longs élancements, rougit l'herbe et son lit de ses ruisseaux fumants. Sur la muse et la myrrhe, il assouvit sa rage. L'aimable Serranus, dans la fleur de son âge, s'endormait sans s'attendre à ce fatal réveil. Il venait de quitter le jeu pour le sommeil. Hélas, il va dormir d'une nuit éternelle. Trop heureux s'il eût pu jusqu'à l'aube nouvelle, prolonger dans la nuit et la veille et le jeu. Avec moins de fureur, terrible et l'œil en feu, au sein d'une nombreuse et vaste bergerie, un lion dont la faim excite la furie, des muettes brebis et des tremblants agneaux, saisit, déchire, emporte, engloutit les lambeaux, et, frémissant de rage et la gueule écumante, répand au loin le sang, la mort et l'épouvante. Avec non moins d'ardeur, son jeune compagnon immole à sa fureur mille guerriers sans nom. Ébésus, Aramis sont devenus sa proie. Fadus, mourant, ajoute à sa cruelle joie. Rétus le suit de près, sans voir venir la mort. Tout ce peuple endormi s'éveille au sombre bord. Rétus, plus malheureux, veillait, voyait l'épée dans le sang du Rutule à tout moment trempée. Derrière un vaste vase en silence tapis, à chaque mouvement, il frissonne pour lui. Il se lève pour fuir la teinte meurtrière, mais l'épée en son corps se plonge tout entière. La mort entre avec elle, et le sang et le vin en longs ruisseaux pourprés s'échappent de son sein. Euria le poursuit, enivré de carnage, jusqu'au camp de Messape. Entraîné par sa rage, il s'avance, il regarde, il voit de tous côtés languir des feux mourants les dernières clartés. Il voit ses fiers coursiers, paissant les molles herbes, et liés à son char, baisser leur front superbe. Il s'élançait sur lui, quand Nisus, moins ardent, arrête par ses mots son courage imprudent. Pof, c'en est assez. Bientôt vient l'aurore ennemie, laissons, pour d'autres temps, cette foule endormie. Marchons et traversons ces rangs ensanglantés. Ils marchent. L'or, l'argent épars de tous côtés, les riches boucliers et les armes brillantes leur présentent en vain leur pompe séduisante. Rial, lui seul, saisit avidement des coursiers de Ramnès le superbe ornement. Son riche baudrier, qu'un art savant décore, que des globes dorés embellissent encore. Auprès de Rémulus, Sédicus autrefois, de l'hospitalité sollicitant les droits, envoyant de sa foi ce brillant témoignage. Le prince, son neveu, le reçut en partage. Celui-ci, par sa mort, de ce précieux don aurait eu le vainqueur, fit le triste abandon. Or, Rial le voit, le saisit et s'empare. Avec la même ardeur, sa jeune main s'empare du casque de Messape, où d'un panache altier l'ondoyante parure ombrageait son cimier. Ils sortent. Cependant, un escadron d'élite, la fleur d'un corps nombreux qu'elle laisse à sa suite, en ordre s'avançait des murs de Latinus, et portait un message au superbe Turnus. Volscens le conduisait. Déjà d'un pas agile, il approchait du camp et découvrait la ville. Quand son regard, perçant au sein de la forêt, a vu de loin fuyant par un sentier secret avec son cher Nisus, le charmant Rial. Vain espoir! Un rayon de l'aube matinale vient tomber sur son casque, et de ce jour douteux le perfide reflet les a trahis tous deux. « Je ne me trompais pas! Arrêtez-vous ! » s'écrie l'inflexible Volscens. « Quelle est votre patrie ? De quel lieu venez-vous ? Où portez-vous vos pas ? Quels sont vos noms, vos chefs ? Parlez, jeunes soldats !» Ils ne répondent rien et se glissent dans l'ombre de la nuit protectrice et de la forêt sombre. Ils implorent du dieu la double obscurité. Mais au détour connu, placés de tous côtés, de nombreux cavaliers ferment chaque passage. Dans la noire épaisseur de ce profond ombrage, à travers les taillis, les rameaux buissonneux, coumés de loin en loin de sentiers épineux, Euryade poursuit sa route embarrassée. De son pesant butin, sa force harassée cède à ce riche poids, et la nuit et la peur ont égaré ses pas dans un sentier trompeur. Nisus vole et s'échappe enfin sur la colline qui de Rome au berceau vit la noble origine. Riche domaine alors, du monarque ennemi. Il s'arrête, il se tourne, il cherche son ami, il ne le trouve plus. « Oh, mon cher Rial, où t'ai-je donc laissé ? Par quelle erreur fatale as-tu quitté mes pas ? Comment t'ai-je perdu ? Où faut-il te chercher ?» Tremblant, pâle et perdu, il part, s'enfonce encore sous ses épaisses voûtes, de la forêt muette interroge les routes, et suivant avec soin la trace de ses pas, appelle son ami, qui ne lui répond pas. Partout la solitude et son morne silence. Tout à coup, il entend l'escadron qui s'avance, il entend des chevaux les pas précipités, et des cris menaçants jusqu'à lui sont portés. Il regarde. Oh, douleur ! Il voit tout ce qu'il aime, traîné par des soldats. La nuit, les bois, lui-même, et l'excès de son trouble, et l'erreur des chemins, malgré ses vains efforts, l'ont laissé dans leurs mains. Malheureux, mais que tenter ? Que résoudre ? Que faire ? Ira-t-il, provoquant une mort volontaire de ces cruels soldats, affronter le courroux, leur arracher leur proie ou tomber sous leurs coups? Soudain, d'un javelot armant sa main guerrière, il invoque des nuits la brillante courrière. Toi qui pars les cieux, toi qu'adores les bois, si de leurs habitants mon père mille fois vint offrir à tes pieds les dépouilles sanglantes, si moi-même souvent, de mes mains triomphantes aux fêtes de ton temple, à tes sacrés autels, j'ajoutais mes tribus aux tribus paternelles. Diane, entends ma voix, que ma main raffermie dissipe sous ses coups cette foule ennemie. Viens de mon javelot guider le vol heureux. il dit. De tout l'effort de son bras vigoureux, le trait part, fend les airs, siffle dans l'ombre obscure, rencontre, atteint, sulmon d'une large blessure. Sur le trait qui se brise, il tombe, et de son flanc, la vie en longs sanglots s'échappe avec son sang. On regarde partout, on s'étonne, on se trouble d'audace et de vigueur, l'adroit Nisus redouble, et du haut de son front, par sa main balancée, un trait non moins fatal à Tagus est lancé. De l'une à l'autre tempe, en traversant la tête, dans le cerveau fumant, le trait mortel s'arrête. Furieux, incertain d'où sont partis ses coups, Volsens ne sait sur qui doit tomber son courroux. « Eh bien, de ces deux morts, tu porteras la peine !» Soudain, s'abandonnant au courroux qui l'entraîne, il fond sur Eurial. Ah, cet aspect affreux, égaré hors de lui! Son ami malheureux ne peut plus supporter sa pénible contrainte. Il se montre. Il s'écrie, enhardi par la crainte, « Moi, c'est moi! Sur moi seul, il faut porter vos coups. Cet enfant n'a rien fait, n'a rien pu contre vous. Arrêtez! Me voici, voici votre victime. Épargnez l'innocence et punissez le crime. Hélas, il aima trop un ami malheureux. Voilà tout son forfait, j'en atteste les dieux. Inutile discours. Par la lance mortelle, déjà frappé de mort, Eurial chancelle. Il tombe. Un sang vermeil rougit ce corps charmant. Il succombe, et son cou, penché languissamment, laisse sur son beau sein tomber sa jeune tête, tel languit un pavot courbé par la tempête, tel meurt avant le temps sur la terre couchée, un lys que la charrue en passant a touché. Nisus court, Nisus vole, aussi prompt que l'orage. C'est Volsens que choisit, que demande sa rage. On l'entoure, on s'oppose à ses transports fougueux. Inutiles efforts. Le glaive furieux tourne rapidement dans sa main foudroyante. Volsens pousse un grand cri dans sa bouche béante. Le fer étincelant plonge et finit son sort. Ainsi le Renisus donne et trouve la mort. Percé presque à l'instant de la lance fatale, il se jette mourant sur son cher Eurial. De son dernier regard cherche encore son ami, meurt, et d'un long sommeil s'endort auprès de lui. Couple heureux, si mes vers vivent dans la mémoire, tant qu'à son roc divin, enchaînant la victoire, l'immortel Capitole asservira les rois, tant que le sang d'aîné y prescrira des lois, à ce touchant récit, on trouvera des charmes, et le monde attendri vous donnera des larmes.